Les 10 heures.
Alors, les gens comme moi, ils sont curieux, mais de plein de choses différentes et pas forcément d'histoire. Les gens comme moi, ils aiment beaucoup l'histoire et les histoires, mais ils savent pas forcément les raconter. Les gens comme moi, ils aiment bien être dehors, même si être historien, ça implique aussi d'être beaucoup à l'intérieur, mais les gens comme moi, ils aiment bien voyager dans l'espace et dans le temps. Les gens comme moi, ils aiment bien faire des choses, fabriquer des choses, même si les gens comme moi, ils se sentent pas toujours capables de les faire. Voilà.
Alors, les gens comme moi adorent danser, adorent écouter de la musique, chanter super fort dessus et avoir des émotions fortes seul dans un appartement ou même dans la nature parfois ou sur mon vélo. Les gens comme moi adorent les animaux, que ce soit les chiens comme la petite chienne que j'ai sur les genoux ou alors tout type d'animaux, même des insectes, tout ce qui est vivant en fait. Ouais, et les gens comme moi, ils aiment aussi le contact et tout ce qui... Ouais, tout ce qui établit une connexion avec les gens, avec d'autres personnes, mais aussi avec, comme je disais, avec d'autres espèces, avec le vivant, avec ouais, les arbres, voilà.
Haha, je vous ai bien eu. Aujourd'hui, dans Du poil sous les bras, il n'y a pas une, mais deux invités. Bienvenue donc dans une émission un peu particulière, puisque j'ai eu envie de mettre en parallèle deux sujets qui se rejoignent et se font écho, et deux invités qui, si elles ne se connaissent pas, partagent, je crois, une grande partie de leur vision du monde. Un monde qu'elles voudraient plus juste, plus durable, moins oppressif. Alors on va prendre les choses dans l'ordre et commencer avec la première invitée de cette heure que nous allons passer ensemble.
Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Pérez-Tisserand et je suis historienne. J'enseigne et je fais des recherches à l'université Toulouse-Jean Jaurès sur l'histoire du 19e siècle, de l'Amérique du Nord et de l'Europe aussi. Je suis spécialisée sur l'histoire de la Californie au début du 19e siècle, donc c'est 2 euros à la rue et vers l'or. Et par ailleurs, ça me tient à cœur que les savoirs que j'ai la chance de pouvoir collecter dans mon métier, de pouvoir en parler avec le plus de monde possible, que ce soit des étudiants ou d'autres gens, et que tous ces savoirs-là que nous autres historiens en collecte, ils puissent être partagés dans toute la société.
Alors ça tombe bien, parce que moi aussi, mon dada, c'est de partager des savoirs. Un savoir qui reste dans une tour d'ivoire, pour quelques universitaires, ça ne sert à rien, ou presque. Les connaissances, ça se partage. Et particulièrement en ce moment, nous avons besoin des connaissances que nous apporte la science. La science qui comprend toutes les sciences. Et c'est extrêmement important de replacer les connaissances issues de la science dans le débat. Aux États-Unis, mais aussi en Europe et ailleurs, la science est attaquée. Attaquée parce qu'elle cherche à produire une description du réel, mais aussi parce que c'est une entreprise collective, peut-on lire dans le livre qu'Emmanuelle Pérez-Tisserand a coécrit avec Tamara Benhari et Olivier Bernet. Un livre intitulé « Le moment orwellien », La science face aux nouveaux obscurantismes, un livre qui paraîtra aux éditions du Seuil à la fin du mois ou qui est déjà paru si vous écoutez cette émission après le mois de février 2026. Un livre essentiel pour décrypter ce qui se joue autour de la destitution des savoirs. Un exemple frappant aux États-Unis, par exemple, c'est la destruction de documents et de pans entiers de savoirs et de connaissances. Nous assistons à un moment politique dans lequel un régime démocratique glisse vers un autoritarisme assumé au nom même de la liberté, peut-on lire. Pour tisser collectivement les voies d'une résistance possible, il faut comprendre les mécanismes qui amènent à l'autoritarisme et en percevoir les premiers signaux déjà très présents en France pour pouvoir résister dès les prémices. Quand certains mettent sur le même plan science et opinion, quand les mots perdent leur sens, quand la réalité est niée, c'est que la démocratie est déjà bien mal en point. Alors, faut-il que plus rien n'ait de sens pour que tout ait un sens? Oui, réécoutez cette phrase, c'est du double think. Médiocre, certes, mais je ne maîtrise pas bien la manipulation mentale, beaucoup moins bien, en tout cas, que Big Brother dans 1984 de Orwell. Une fiction d'anticipation à l'époque, mais qui devient réalité sous nos yeux. Alors, défendons la science et la connaissance, sans plus attendre, dans Du poil sous les bras.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
On a appelé le livre Le Moment Aurélien parce que je pense qu'on n'était pas les seuls du reste, mais à partager cette impression que on était en train de vivre quelque chose qui ressemblait au roman 1984 d'Orwell. Et donc dans ce livre, on est dans une espèce de dystopie dans laquelle les dirigeants politiques coupent la population de tout rapport à la réalité. Donc il y a une médiation du rapport à la réalité qui fait que on est obligé en quelque sorte de suivre la parole des dirigeants parce que on n'a pas de savoir, de connaissance de ce qu'on est en train de vivre. Tout est médié par la parole des dirigeants. Il n'y a plus de rapport au savoir. Et en fait, on avait l'impression, notamment avec pendant les mandats Trump et donc en particulier le deuxième, qu'on avait quelque chose de cet ordre-là qui était en train de se jouer, qu'il était en train de non seulement d'avoir un discours de mensonge et de propagande, ça on l'a déjà vu, mais qu'en plus, en parallèle, il était en train de détruire et de délégitimer les endroits où on développait la construction collective de connaissances sur le passé, sur le présent. Et donc ça s'illustrait dans différents domaines, à la fois le domaine sur lequel moi je travaille qui est l'histoire, mais aussi, par exemple, sur les sciences du climat, sur la biodiversité, sur la question des identités de genre, la question de l'accès au droit, la question du racisme. Et donc, en fait, non seulement on a un discours qui niait ces éléments-là, mais on était en train, avec des attaques très fortes sur le savoir et les universitaires, de détruire les institutions collectives dans lesquelles on pouvait avoir accès à cette réalité.
Dans 1984 de George Orwell, Winston, le personnage principal, est chargé au ministère de la vérité de réécrire l'histoire pour qu'elle convienne à la ligne du pouvoir, un pouvoir personnifié donc par le fameux Big Brother. Et dans cette fiction d'anticipation, cet univers dystopique, Orwell invente des concepts. Il met des mots sur des pratiques du pouvoir que le pouvoir utilise pour manipuler des masses. Le doublethink, le newspeak, la falsification de l'histoire, ces concepts sont les signes annonciateurs d'une dérive vers un régime autoritaire. Winston n'est pas dupe.
Et donc lui est une petite main qui est chargée de faire que ce qu'on trouve dans les sources, et notamment dans les journaux, correspondent au jour le jour au discours de Big Brother. Et donc, en fait, c'est ce concept de la mutabilité du passé ou la falsification qui fait que son travail à lui, c'est d'aller chercher dans les archives. Enfin, il y a tout il y a un peu de technologie qui a donc ça lui arrive automatiquement. Et ils sont plusieurs à travailler là-dessus en concurrence. Mais donc, son boulot, c'est de réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde au discours politique du moment. Ça correspond à ça, la mutabilité du passé. Et c'est des choses, on le montre dans le livre, qui ont déjà cours actuellement, et on le voit notamment en Russie, en Chine, donc dans des régimes autoritaires. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on voit aussi en train de se produire aux États-Unis avec Trump ou en Argentine sous Milei, avec une sorte de mécanisme de « on va réussir à réécrire le passé ». On va filtrer, par exemple, les expositions qui ont lieu dans le grand musée qui s'appelle le Smithsonian et on va enlever certaines choses qui ont existé. Donc, il y a cette forme de réécriture qui, en fait, existe déjà. Donc, ça, c'est la mutabilité du passé. Et aussi, les outils... alors, un qui est peut-être assez connu quand on parle d'Orwell, c'est le newspeak. Parfois en français, dans certaines éditions, on appelle ça le novlangue, mais c'est vrai que ça a pris un sens, finalement, tout langage de jargon administratif en vient à être appelé novlangue. Mais effectivement, c'est un appauvrissement de la langue qui fait que ça réduit le cadre de la pensée. C'est-à-dire qu'on va avoir non seulement une simplification de la langue, donc moins de mots à utiliser, donc le dire noir, on va dire non blanc, ou l'inverse, etc. Et ça empêche de penser avec beaucoup de nuances, c'est-à-dire que toute la complexité de la pensée, d'imaginer différentes trajectoires et de jouer avec les mots ne va plus être possible. Et en plus, ça fait qu'il y a une sorte de langue officielle qui s'installe. Donc ça, c'est un instrument... Bon, la langue, on a plein d'exemples historiques où des dirigeants politiques ont modifié la langue et ça permet de modifier des cadres de pensée, des cadres imaginaires, etc. Par exemple, recoder une série de mots. Par exemple, dans le livre, on parle de de l'excellence, et ça c'est vrai que c'est un terme qu'on entend beaucoup dans la réforme des institutions ou et dans l'université par exemple, mais je suis sûre que voilà, tous les auditeurs, auditrices ont des exemples de ces mots qui ont l'air très bien en l'apparence, excellence, progrès, etc., mais qui en fait, ce que ça veut dire concrètement en termes de transformation de votre qualité de vie ou de votre qualité de travail, est à l'opposé. Par exemple, l'excellence à l'université, ça va être la mise en concurrence, le fait de devoir faire des appels à projets de plus en plus chers et donc de passer de plus en plus de temps à gérer de l'argent ou à déposer des projets de recherche plutôt qu'à faire de la recherche de qualité que nous, on appellerait excellente. On parle aussi de l'autonomie, par exemple. Donc, on nous dit, les universités sont autonomes, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, prendre vos propres décisions, et en fait, on ne nous donne pas d'autonomie budgétaire, par exemple. Donc, c'est comment est-ce que le sens des mots est perverti pour en faire un outil de domination et nous imposer et légitimer un certain nombre de changements. Et donc, dans Orwell, ça va être encore plus loin, mais notamment grâce à ce troisième outil qui est le double think, qui est cette idée d'avoir deux idées contradictoires en même temps. Et donc, ça rejoint cette idée de l'excellence et de l'autonomie, c'est-à-dire qu'on nous fait penser, on pense qu'on pense quelque chose, mais en fait, on pense son inverse et ça perturbe complètement la pensée. C'est une sorte de méthode de manipulation, en quelque sorte.
Les fameuses phrases du double think, c'est par exemple « War is peace », la guerre c'est la paix, « Freedom is slavery », la liberté c'est l'esclavage. Le double think, c'est la faculté d'être ok avec deux croyances complètement contradictoires, mais d'être persuadé que tout ça est tout à fait possible. Alors comment se prémunir? Comment savoir si ce qu'on pense, ce qu'on lit ou ce qu'on nous dit est vrai? Comment éviter de penser que justement la guerre c'est la paix?
Ah oui, bah c'est ça la grande difficulté. Et effectivement, quand on parle de chaîne d'information concernant CNews, on est déjà dans ce monde orwellien. En fait, une des choses qui est importante, c'est ce qu'on essaye d'apprendre et de partager, de travailler dans nos cours universitaires, mais on peut le faire tous à notre niveau, c'est d'essayer de comprendre que l'information ne tombe pas du ciel, en fait, que l'information n'est pas quelque chose qui existe en soi, c'est quelque chose qui est construit. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on voit est faux, c'est-à-dire prendre conscience du cheminement, de comment une information devient une information, et que notamment la manière dont on raconte une histoire, que ce soit dans un livre, que ce soit aux informations, elle est construite à partir de sources, de documentation, d'interviews, et que tout ça est choisi. Et qu'en fonction des personnes qu'on choisit pour raconter leur histoire, est-ce qu'on donne le micro à des chefs d'entreprise qui ont un intérêt à cela, ou est-ce qu'on donne le micro à un agriculteur, une agricultrice, une éleveuse, un éleveur, ou un étudiant, une étudiante, un universitaire? On va avoir des récits différents. Ça ne veut pas dire que c'est de la manipulation, il faut juste avoir conscience de comment cette histoire elle est construite, à partir de quelles sources, quels choix ont été faits, et d'arriver à comprendre, non pas de se méfier de tout, mais d'essayer de comprendre le mécanisme qui fait que cette histoire-là a été écrite et nous est proposée. Et après, on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que les témoignages qu'on peut entendre, ils viennent d'un certain endroit, de certaines personnes, qui partagent une réalité qui est la leur, et ensuite en faire quelque chose de soi. Mais du coup, ne pas la prendre tout cru, en quelque sorte, et effectivement, d'avoir conscience de ces sources d'information, de savoir qu'un certain nombre des médias et de l'édition en France sont dominés par un grand groupe, par Bolloré, voilà, et pas seulement, et que ça a forcément des effets sur l'information et le fait que certaines informations sont répercutées ici ou ailleurs. Et la raison pour laquelle on a écrit ce livre, c'est qu'on pense qu'il y a un travail, une activité scientifique à laquelle on consacre collectivement des ressources. On a une recherche publique assez forte qui est attaquée aussi en France, mais on consacre collectivement des ressources payer le salaire de gens qui vont élaborer ce rapport aux faits avec une méthode scientifique, c'est-à-dire avoir une méthode de choisir ses sources, avoir une méthode pour poser des questions, poser des problèmes, et croiser ces informations. On est aussi, on se relie collectivement, donc c'est un travail qui est collectif d'élaboration des savoirs, qui effectivement peut évoluer. Et on a vu plein d'évolutions et même voilà des théories qui restent des théories jusqu'à ce qu'elles soient avancées par d'autres découvertes. Mais globalement, il y a des faits et des consensus scientifiques, qu'ils soient en histoire ou en sciences du climat, par exemple. Et donc, pour mon domaine historique, il est avéré que les États-Unis se sont construits en large partie sur l'esclavagisme et sur le colonialisme. Et ça, c'est un fait avéré. Après, on peut discuter sur les intentions, sur des éléments plus subtils. On peut avancer dans cette connaissance et sur l'articulation causale. Mais ça, c'est un fait. Et c'est un fait qu'actuellement, le gouvernement Trump et les électeurs de Trump ne veulent pas entendre et veulent modifier. Mais c'est quelque chose qui s'est produit. Effectivement, ça ne convient pas à un discours positif du roman national. Mais en fait, ce sont des faits scientifiques. C'est comme le réchauffement climatique, c'est avéré par le rapport du GIEC et l'origine humaine du réchauffement climatique surtout.
La science, c'est du travail d'abord, me dit Emmanuel Pérez-Tisserand. C'est une éthique aussi. Et c'est du temps, le temps long, le temps nécessaire à la production de connaissances, à la recherche. Et comme elle vient de le rappeler, c'est aussi du collectif. On parle de consensus scientifique. Ce consensus est amené à évoluer car la science est ancrée dans la société et va se nourrir continuellement. Mais quand vous voyez un gouvernement nier un consensus scientifique pour faire passer ses idées, c'est dangereux. Il met alors en place une stratégie pour délégitimer la science, l'affaiblir, organiser le doute. Par exemple, quand le gouvernement français veut imposer la loi Duplon, il va d'abord produire des réalités alternatives, contester la validité des données et des méthodes de recherche, relativiser des résultats. C'est de la manipulation. Le gouvernement disqualifie des données scientifiques au profit d'intérêts économiques de certains. Le vote de la loi Duplon, c'était un moment orwellien, ou peut-être pré-orwellien. En tout cas, en France aussi, le gouvernement s'attaque petit à petit, assez rapidement même, aux équipes de recherche, aux universitaires, à celles et ceux qui produisent des savoirs scientifiques.
On a quand même un discours de délégitimation de l'université et de la recherche publique à laquelle on assiste depuis quelques années. Ça peut prendre la forme assez rébarbative et qui peut sembler ne concerner que les universités ou les chercheurs, chercheuses, on va changer votre statut ou on va donner de l'autonomie aux universités. Donc c'est un discours qui est peu compréhensible quand on est loin un peu de ces sphères-là, de ces enjeux. Mais en fait, là où c'est important, c'est d'expliquer que comme pour toutes celles et ceux qui travaillent, les conditions de travail d'exercice des universités et leur autonomie, mais au sens pas autonomie budgétaire, mais autonomie de travail et être en dehors de dépendance, garantit justement notre indépendance et la qualité de ce qu'on va faire. Et que si on a une ingérence politique et que tout d'un coup un discours politique nous dit qu'est-ce qu'on doit chercher ou pas chercher, ça déjà ça met en péril notre mission d'effectivement développer nos connaissances scientifiques, nos connaissances sur le monde et d'être en fait une sorte de conseillère non pas seulement des politiques mais de la société pour savoir sur quoi on peut se baser pour aller de l'avant. Et en fait ce qu'on a constaté, c'est des ministres qui, sans connaître du tout ce qu'on fait, ce sur quoi on travaille, décrètent que tout d'un coup, il y a de l'islamo-gauchisme à l'université, en fait, on est des chercheurs qui ne cherchent pas vraiment. Donc, tout un tas de discours de délégitimation. Donc, ça, c'est le discours, mais il y a aussi des politiques de réduction de nos moyens de travail, comme je disais tout à l'heure, d'augmentation de nos tâches qui enlèvent du sens à ce qu'on fait, aussi réduction des moyens, ce qui fait que on est moins nombreux devant les étudiants, ce qui est quand même une de nos tâches de courroie de transmission entre ce qu'on les recherches qu'on fait, les connaissances qu'on a et les jeunes générations. Et donc, quand on est moins nombreux face à plus d'étudiants, ben on fait moins bien notre travail. Et donc, toutes ces réformes structurelles, pour revenir un petit peu à ce moment pré-orwellien, sont des conditions dans lesquelles on va délégitimer aux yeux du reste de la population ce qu'on fait en le dénigrant. On nous enlève la qualité des conditions de travail qui permet qu'on le fasse bien. Et du coup, ça conduit à un désaveu, un abandon, dire bah, finalement les universités publiques, à quoi bon, et on va ne plus exister par cette force des choses, quoi. Time coming to right now, pipe down, lifetime looking for things I thought I'd found already, falling to the floor like I'm alright, I'm steady, set myself back so I can tell me, 20 years deep in the rhymes and beats, and I'm still so far from finding peace, every line is a ladder I can climb through time, and I walk straight face through these winding streets, I eat the bread of rhythm, I drink the milk of rhyme, I've been carrying a bag of shame that's bigger than me, dragging it behind me, up and in the staircase until the day I realize, this doesn't mean what I think it does, I don't need to carry this forever, I left it in the clearing by the fire pit and ran, back to the child I was, looking for an elder, I saw myself there, I took myself by the hand, when I was young I sought help from my older self, I came into my head, I told me know yourself, when I was young I sought help from my older self, I came into my head, I told me know myself. I was 17, heaven seemed close enough to touch. I had never been happier, chest against the barrier, watching Wu-Tang, my own character starting to bloom. I was learning how to capture a room in two phrases, 20 years deep in the rhymes and beats. Close my eyes and speak down the wires of time. I go back to the child I was when I put myself on the line. I had to beg for the mic, I had to deal with the ignorance, I had to get better, I wanted bigger things. Well, these days, those days, they are far away. Try and catch them in my sights, but they start to fade. Now I sit amongst crate loads of rhyme books, and I think about the days that the time took. I thank the little me that put the work in. Like, could you picture me when you were spitting 16s? Surfing the top deck, penning them bars. Underage in the clubs, taking charge of the mic. Precocious little nothing with the world in your sights. I am on it now, I will work harder. This is peace to the kid I came after.
Peace to the kid I came after.
The words are the bridge between the present and the past. I know myself.
When I was young, I sought help from my older self.
I came into my head, I told me know yourself. When I was young, I sought help from my older self. I came into my head, I told me know yourself. Know yourself.
Know yourself. Soon, child, we're gonna find release.
La petite blanc dans du poil sous les bras.
À force d'épuiser les universitaires avec des controverses pour détourner l'attention, avec des fausses polémiques pour nous faire peur, eh bien on finit par se dire que penser devient un délit. La peur s'installe. C'est cette peur qui est un des instruments majeurs des totalitarismes. Les professeurs sont par exemple vite accusés d'être des militants, comme si la neutralité était une exigence du travail scientifique, alors qu'il n'en est rien. La science est une construction sociale, il n'y a pas de vérité objective. La science est le résultat d'un ensemble de pratiques. Et une théorie scientifique est une production collective qui n'est ni neutre, ni rationnelle, ni indépendante du contexte. Je vous renvoie au livre « Le moment orwellien » pour en savoir plus. Et puis pour saisir qu'être militant n'empêche pas de faire correctement son travail scientifique, qui est après tout ce qu'on demande à un scientifique. Même si faire bien son boulot de recherche est aujourd'hui de plus en plus dur, car le gouvernement supprime petit à petit les conditions nécessaires à un exercice universitaire correct. Comme par exemple avec la généralisation des appels à projets.
Alors voilà, en fait, c'est une manière de nous domestiquer, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est une manière de dire on ne va pas vous donner de l'argent pérenne et on ne va pas vous faire confiance pour développer les recherches que vous, en tant que chercheuses et chercheurs collectivement, vous allez vous dire c'est ici qu'il faut qu'on mette de l'énergie, etc. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, de milieux qui ne sont pas forcément de la recherche et qui peuvent correspondre à une commande politique et qui oriente fortement, donc c'est pas de la recherche appliquée, mais en tout cas c'est des domaines prioritaires. Et en fait il y a des dossiers assez non seulement longs à remplir, mais aussi qui correspondent qui ne correspondent pas à la manière dont fonctionne la recherche. C'est-à-dire que ça va être adapté de logiques de projet qu'on trouve dans l'entreprise pour des choses très concrètes et qui sont très bien et qui fonctionnent sans doute très bien dans l'entreprise pour savoir quels seront les livrables, sur quel calendrier, avec des chronogrammes, etc. Des tas de choses un peu barbares, mais d'une part sur lesquelles on n'a pas forcément été formé, donc ça nous demande voilà, d'apprendre à le faire, pourquoi pas, mais surtout ils ne correspondent absolument pas. C'est-à-dire qu'on nous demande un peu à l'avance ce qu'on va trouver, alors que le principe de la recherche, c'est que on va construire nos questionnements, faire se dérouler alors, soit des expériences si on est dans des sciences expérimentales, soit quelle collecte de sources, comment est-ce qu'on va réagir, etc. Et donc on ne peut pas vraiment donner à l'avance les résultats qu'on va avoir. Et donc en fait, c'est des fonctionnements qui sont extrêmement différents. Et donc, il y a une dynamique de commande, c'est-à-dire on va nous dire ce sur quoi il faut orienter les recherches. On donne l'exemple un peu amer de ce collègue qui travaillait sur les coronavirus plusieurs années avant le déclenchement de l'épidémie de Covid et qui n'a jamais obtenu de financement. Et finalement, c'est d'autres chercheurs dans d'autres pays qui ont pu publier sur ces questions-là. Et lui, il voyait bien qu'il y avait un intérêt, une urgence à travailler sur ces questions-là, mais ça ne correspondait pas à la politique du moment. Et donc là, il s'est pas senti écouté et c'était dommage. Et donc, il ironise un peu sur ses appels à projets et donc c'est il rit jaune quoi en quelque sorte. Mais donc ça correspond à une commande, ça correspond à aussi une manière de domestiquer notre temps, c'est-à-dire qu'au lieu de nous donner les moyens de travailler, on a servi une partie de notre temps à répondre à ces appels à projets dont les résultats sont le taux de réussite est très bas, et donc en fait on passe beaucoup de temps à rédiger ces appels à projets sans obtenir les financements qui vont avec. Et donc c'est vrai qu'on considère que c'est aussi un gaspillage non seulement de nos ressources, mais des ressources que collectivement, encore une fois, c'est de l'argent public. Et donc en fait, on estime, on pense et on espère convaincre aussi nos concitoyennes et concitoyens que peut-être il y a une meilleure manière d'utiliser le temps de chercheuses et chercheurs à qui on a fait confiance, qu'on a recruté après un long processus, pour essayer d'éviter cette dynamique d'appel à projet, qui est une forme de domestication et de gaspillage de notre temps.
Alors, comment faire ? Comment résister ?
Alors, la première chose qu'on se dit dans le livre et qu'on invite tout le monde à faire, c'est effectivement de pas essayer de pas se laisser avoir par la novlangue, par le newspeak, et tant qu'il nous reste cette possibilité de rétablir la réalité sur l'usage de certains mots. On prend l'exemple, encore une fois, on parle beaucoup de l'université, mais donc il y a ce programme qui a été appelé Bienvenue en France, qui est le programme d'accueil des étudiants étrangers en France. Et ce programme Bienvenue en France, en fait, ce qu'il fait, c'est de dire on va faire payer les étudiants étrangers qui viennent en France et on va les faire payer plus que les étudiants étudiantes français, et c'est aussi une logique de tri, c'est-à-dire qu'effectivement c'est les étudiants étudiantes qui vont pouvoir se permettre de payer cela, et donc issus de certaines catégories socio-professionnelles de certains pays, etc., qui vont pouvoir se le permettre. Et donc c'est un exemple qu'on donne de on appelle ce programme Bienvenue en France, mais en fait c'est pas bienvenue qu'on est en train de dire, c'est on est en train de dire on va vous trier en fonction des nationalités et des catégories socio-professionnelles désirées.
D'abord, résister à l'appauvrissement de la langue et donc de la pensée, nous dit Emmanuel Pérez-Tisserand, et ne pas se soumettre en avance. Une exigence de lucidité que rappelle Timothy Snyder, un historien américain cité dans le livre « Le moment orwellien ». Je cite d'ailleurs la suite de ce passage. « L'obéissance anticipatrice, qui consiste à s'adapter instinctivement à une situation nouvelle sans même y réfléchir, est le premier rouage par lequel s'installe l'autoritarisme. Dans le monde